بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah Azza wa Jal, l'unique, celui qui nous accepte ce soir pour donner 15 ou 20 minutes de notre temps pour étudier ce nom d'Allah, Allah qui est Ash-Shafi. La dernière fois, on s'était focalisé sur les maladies physiques avec différents hadiths et histoires à l'appui, avec des hadiths qui prouvent que des fois Allah peut accorder la santé sans intermédiaire, ou alors notre Seigneur fait descendre le shifa, la santé, par l'intermédiaire de traitements, de médicaments. Et on a vu également, je pense que c'était une histoire marquante, cette femme qui était souffrante et elle a demandé au prophète alayhi salat wa salam de faire dua pour elle. Et qu'est-ce que le prophète m'avait répondu, Hudhayfa? In da'autu, si je fais dua pour toi, tu auras la santé. Mais si tu patientes, ce sera meilleur pour toi. Et qu'est-ce qu'elle a choisi, Sajid? La patience et la maladie. La patience et l'endurance. Ça, c'était le niveau du iman des sahaba qui avait compris le sens des épreuves. Le sens des épreuves. Troisième point, l'auteur, rahimahullah, yaqul, وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ وَجَعَلَهُ الشِّفَاءَ التَّامَ مِنْ جَمِيعِ الْأَدْوَاءِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ. Allah Azza wa Jal a révélé sur cette umma son livre saint, le Coran, et à travers le Coran, il y a الشِّفَاء, la santé pour les maladies physiques, mais également, et on va dire surtout, les maladies spirituelles. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir, Inch'Allah. Salam barakatuh. Et l'auteur cite le verset de la sourate Yunus. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum. Wa shifa'un lima fi s-sudur. Et donc on a fait quelques recherches de tafsir et bifadlillah on a pu regrouper trois tafsirs. Ibn Kathir, Al-Qurtubi et Al-Lama As-Sa'di rahimahumullah. J'ai pas la traduction du verset, j'ai le tafsir mais pas la traduction. Le sens du verset approximatif c'est Ya Yuhannas. Ça veut dire quoi Ya Yuhannas? Oh les gens. Allah vous a fait descendre une exhortation. Maw'iva, c'est une exhortation, c'est-à-dire un message fort qui comporte une mise en garde. Maw'ivatum min rabbikum, wa shifa'un lima fi s-sudur, une guérison de ce qui est dans les poitrines. Wa shifa'un lima fi s-sudur, une guérison de ce qui est dans les poitrines. Là déjà on voit le sens et où va le verset. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, et une hudan, une guidée, wa rahma, une bénédiction pour les croyants. Il y a 1 2 3 4 5 points que les mufassirin rahimahumullah ont retenu de ce verset. Je répète et je rappelle le contenu du verset. Oh les gens, Allah Azza wa Jal vous a révélé une exhortation, c'est-à-dire ce Coran c'est un rappel puissant. Alhamdulillah, ce Coran est un rappel puissant, une exhortation. Premier point, wa shifa'un lima fi s-sudur, un remède de ce qui est dans les poitrines, qui va régler les problèmes qalbiya internes, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, et une bénédiction et une guidée pour les croyants. Alors Allama As-Sa'di rahimahullah dans son tafsir il dit, ce sont des tafsirs complexes, très précis, c'est-à-dire vraiment il faut suivre avec beaucoup d'attention, autrement on peut passer en revue et brasser en cherchant de grosses informations, mais c'est là toute la science de ces mufassirin. Ils arrivent à développer, à extraire des règles des versets et à nous mettre face au verset. Est-ce que tu es conscient de ce que ton Seigneur a dit de ce verset? Parce que le tout, c'est pas de le lire et de le comprendre, ni même de connaître son tafsir. C'est que voilà, maintenant, l'information est devant toi. Qu'est-ce que tu en fais? Et ça, c'est une spécialité de Allama al-Sa'di, rahimahullah. Il te met face au verset, dit, qu'est-ce que tu fais de ce verset? Est-ce que tu décides d'aligner ta vie et ton lien avec Dieu par rapport à ce verset, ou tu te contentes et tu te suffis de l'écouter et d'être comme les gens qui écoutent les bayans de Jum'a et qui sortent et qui oublient tout, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc voilà, donc c'est un tafsir qui nécessite un maximum d'attention. J'ai numéroté les points, il y a tellement d'informations. Allama al-Sa'di dit que Allah Rabbul Izzad, à travers ce verset, nous rappelle que Allah rappelle à l'ensemble de sa création qu'il est nécessaire et vital pour eux de revenir vers ala hadha al-kitab al-karim, de revenir vers ce livre. Parce que dans ce livre, il y a les limites, les règles, la santé, l'apaisement du cœur, la guidée et la clémence d'Allah qui te permet d'accéder au Jannah. C'est-à-dire, il y a tout dans ce verset de la sourate Yunus. Les mufassirin disent que notre Rabb Azza wa Jal a révélé d'une certaine façon les grandes lignes concernant l'apport du Coran pour le cœur du croyant. Hada. Et donc, maw'izatum min rabbikum, une exhortation de votre Seigneur, ay ta'izukum. À travers ce Coran, Allah vous exhorte, c'est-à-dire vous met en garde. Wa tudhakkirukum 'an al-a'mal al-mujibati li sakhatillah. Allah vous met en garde contre les actions qui provoquent la colère d'Allah, qui provoquent sa colère. Je répète, dans ce Coran, Allah nous rappelle également quelles sont les actions qui provoquent sa colère, sakhatillah. Et cette colère qui a des conséquences, bibayani athariha wa mafasidiha, et ces péchés qui provoquent la colère d'Allah ont également un effet sur notre cœur, sur notre vie de ce monde et surtout notre vie du akhirah, de l'au-delà. C'est-à-dire que le croyant, quand il voit une mise en garde contre un péché, d'accord, je prendrai un exemple parmi tant d'autres, wala taqrabu zina wala taqul lahuma ouffion, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba, d'accord, innama harrama alaykumul mayta wad-dam wa lahma al-khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihi ila ghayri dhalik. Non, cherchez le verset avec al-khamr wal maysir, mais je suis parti vers d'autres interdits aussi. C'est-à-dire, voilà, le croyant, quand il entend ces interdits, il réalise que l'interdit, le haram, c'est pas juste une philosophie, c'est pas un mode de vie. C'est pas comme si tu te déclares écologiste, avec tout le respect que j'ai pour les écolos, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pas un mode de vie, une hygiène de vie, une philosophie, une approche et tout. Non. Quand Allah te dit que ça, c'est haram, les 5 péchés à peu près, hein, on a traduit les versets? Non. Mais je pense que c'est bon pour tout le monde. Non. T'as compris quoi, la taqarrubu zina? Est-ce que tu arrives à le mettre en pratique? Allahu Akbar, qu'Allah accepte. Éloignez-vous de l'adultère. L'autre verset qu'on a cité, wala taqul lahuma ouf, ne le dites pas, ouf, c'est le respect envers les parents. Après, qu'est-ce qu'on a cité encore? L'interdiction de l'intérêt, d'accord? Et puis des versets concernant, bon, la consommation de la viande du porc, donc ça c'est peut-être pas pour nous, hein, ça c'est acquis, et tout type d'animaux qui ont été égorgés pour autre qu'Allah, ou l'animal munkhaniqatu qui est mort étouffé, ainsi de suite, bref. Et le verset que je cherchais concernant l'interdiction de l'alcool. Voilà donc 5 interdits qu'on a cités comme ça, qui se trouvent dans le Coran. Donc, c'est pas juste une philosophie et un mode de vie. Dans ma pratique, dans mon identité de musulman, ces actions sont prohibées. Après, vous savez, quelqu'un me l'a dit ça il y a quelques jours, on n'est plus à l'époque des Sahaba, on n'est plus dans le désert. Ça, c'est des paroles graves, ça. Ça, c'est des paroles graves, hein, quand on veut faire reculer les interdits en disant qu'on n'est plus à l'époque des Sahaba. Si on est plus, on peut plus être aussi strict, d'accord? Donc, voilà. Donc, il y a cette approche philosophique des interdits, mais en fonction du contexte, on s'adapte et blablabla, d'accord? Mais c'est pas ça qui te sauve de l'au-delà. Devant le tribunal d'Allah, ce discours-là, ça passe dans le cahier des lecteurs, aucun problème. Ça passe sur les réseaux sociaux, pas de problème. Ça passe dans les siècles d'intello, ceux qui se déclarent intello, qui philosophent sur la religion, ça passe, d'accord? Ça fait de la discussion. Ça peut même animer un biryani du dimanche, en famille, ou bientôt un couscous du dimanche, d'accord ? D'accord ? Bon. Mais irrecevable devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal. En fait, c'est ça, il faut arrêter de se la raconter. Et il faut arrêter d'être hypocrite et se dire, se voiler la face, là dans le sens figuré du coup, et de se dire que non, c'est pas grave, tout ça et tout. Non, c'est pas grave, tout ça, mais après, il y a quoi ? Le tafsir de Suratul Qiyam, c'est quoi encore le verset que l'être humain veut vivre avec sa passion là ? Vous avez commenté ça ? Ah, le verset ne me revient pas, on l'a commenté pourtant. Là, bal yuridu l'insanu liyafjura amama. Et c'est ce que Ibn Kathir, rahimahullah, dit. Allah, notre Seigneur, connaît exactement comment on fonctionne et quels sont les mots, M-A-U-X, les mots, les maladies qu'il y a de ce cœur. Quand l'être humain accomplit un péché, il dit, c'est pas trop grave. Il y en a qui font plus, il y en a qui font plus grave que ça. Et le tawbah, plus tard. Et l'être humain aimerait continuer à avancer comme ça, entre passion, quelques péchés, retour de bonnes actions, mais il n'y a pas de tawbatun nasuha, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de retour sincère vers Allah. Et shaitan, lui, ça lui fait son affaire à lui. Pour lui, bah, c'est bien. Il a un client, peut-être pas un client premium, mais un client qui apporte satisfaction parce que il va répéter les mêmes péchés sans jamais se remettre en question. D'accord. Donc, je ferme cette parenthèse, on revient. Et dis donc, voilà, quand on est face à ces interdits, c'est pas une philosophie que voilà, non. C'est que réalise que ce sont des choses haram. C'est un péché. D'accord. Et que le péché provoque la colère d'Allah. Comment est-ce que tu peux respirer, vivre, marcher, te nourrir en sachant que ton Seigneur te regarde avec un regard de colère et Allah n'est pas satisfait de toi? Ça doit être insupportable. Ça doit être insupportable. Si mon cœur est habité par un peu d'amour pour Allah. Ça vous est tous arrivé, je pense. Vous sortez du travail, période d'examen, grosse fatigue. Vous arrivez juste un peu avant la salah chez vous et vous vous dites que, écoute, à ce soir, on va faire la salat à la maison, on mange tranquille, et puis ça peut arriver que Shaitan met ça dans ta tête. Après une journée de semaine commerciale, par exemple, et ainsi de suite. Et voilà, je brasse un peu les exemples hein, et les situations de vie. Mais après, tu te dis que le prophète alayhi salat wa salam a, entre guillemets, menacé. C'était pas une menace, hein. C'est une mise en garde sévère pour qu'on réalise la gravité de cette insouciance. Le prophète dit que je serai prêt à faire brûler les demeures des gens qui ne viennent pas accomplir leur salat en jamaat, en congrégation à la masjid. Le prophète n'aurait jamais fait ça, al-'auzu billah. Mais c'était, les savants disent, c'est le summum en termes de mise en garde pour que tu réalises que délaisser leur salat en jamaat, c'est pas tu fais pas la salat mutlaqa, non, délaisser la salat derrière l'imam sans raison valable, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc la bonne réaction de foi, c'est quoi? C'est que voilà, tu penches un peu vers ton nafs, ta fatigue, un bon repas, la clim, te reposer, un bon match peut-être pour ceux qui regardent et tout. Mais après, il y a ce retour de iman où tu te rappelles de ce hadith et c'est là le test. C'est là que tu te rends compte, est-ce qu'il y a la moindre d'Allah dans ton cœur ou non? Je te dis que non, ben, bismillah, allez, on fait l'effort, je fais mon katfaraz avec l'imam et tout, il y aura peut-être la hidayah pour moi dedans, il y aura une grande lumière, il y aura peut-être une acceptation, et quand je fais la salat Isha en jamaat, Allah m'accorde la moitié de la nuit passant à ibada, et si je meurs dans la nuit d'un arrêt cardiaque à 1h, 2h du matin, quelle récompense j'aurai que j'ai déjà fait ma salat? Il a réalisé d'alik. Et là, tu cogites, et là, tu penses, tu pèses, j'ai dit le pour et le contre. Il n'y a pas de contre. Tu pèses le pour. D'accord? Tu vois le pour. Tout ce qu'Allah te donne. Et le contre, d'une certaine façon, c'est le contre-nafs. Le contre-shaitan. Qui aimerait que tu délaisses, que tu perds, ses récompenses. D'accord? Donc, voilà, la réaction du croyant, c'est de réaliser que ses péchés provoquent la colère d'Allah. Et quand Allah est mécontent de moi, il y a des conséquences dans ma vie de ce dunya et dans ma vie de ma préparation du akhirah. Et puis Moufassirin dit également, ô musulmans, est-ce que au-delà de l'aspect du haram, as-tu réalisé que le péché que tu accomplis au quotidien provoque la colère de ton Seigneur? Prise de conscience. et ne pas faire comme si rien n'était, continuer à vivre normalement, et on se console spirituellement parce qu'on vient à la masjid 5 fois par jour. Tu sors, voilà, il te reprend par le bout du nez, il t'amène où tu veux. À un moment donné, il faut se réveiller. Et il faut avoir cette connaissance religieuse, connaître les limites, mais également cette prise de conscience, qu'est-ce que la bonne action m'apporte et qu'est-ce que le péché occasionne. Quelles sont ses conséquences? Naam. On continue. Et ça, c'est le lubb al-mawdou', c'est de ça qu'on veut parler, c'est l'objectif de l'étude du nom d'Allah al-Shafi. Wa shifa'u lima fi as-sudur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Ibn Kathir rahimahullah dit que guérison contre quoi? Min ash-shubahi wa ash-shukuk wa kulli danas, toute impureté. Les impuretés, toutes les traces que les péchés laissent, toutes les mauvaises pensées, les choses négatives qu'on brasse. Le Coran va nettoyer tout ça, bidnillah. Mais on va voir un Coran qui est abordé d'une certaine façon. Et également, il nous guérit contre, on appelle ça les shubuhat. Les shubuhat, c'est entre la mauvaise pensée et le waswasa et le doute et l'ignorance. C'est un mélange de tout. Vous mélangez tout ça, na'oud billah, ça vous donne ash-shubuhat. Ce sont les remises en question permanentes sur la religion. Quand on se pose des questions, on n'arrive pas à comprendre, on a des doutes, et ainsi de suite, ça s'appelle ash-shubuhat. Le Coran va régler ton problème. C'est pas en allant chercher des réponses sur Internet jusqu'à 2h du matin, tel savant du monde arabe, tel savant du monde indien, tel, essaye de comprendre. Rattache ton cœur avec le Coran. Ça apporte une telle lumière que tout ça là, tout ça ben masti spirituel, ben masti intellectuel là, d'accord? Ça vient de Shaitan, ça. Qui te fait poser mille et une questions. D'accord? Je reste qu'un sahaba aussi avait dit au prophète d'Allah que des fois il y a des pensées qui me passent par la tête et j'ose pas l'exprimer. C'est quand une personne pense Allah a créé toute chose, mais Allah a toujours existé, comment est-ce possible? Des questions que la logique humaine nous amène vers ces interrogations. Et là, le prophète a dit de dire la halou ala quwwat ala billah, dire amen tu billah, c'est là que ton iman bil ghaib il s'impose. Parce que tu te rends compte que la base de ta croyance, la ilaha illallah, ne repose pas sur un raisonnement cohérent et logique qui peut être prouvé par une expérience ou par les sentiments. Non, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'invisible et tu t'accroches à cet invisible. D'accord? Je referme cette parenthèse. Donc, un remède contre les maladies spirituelles, les doutes envahissants. Et surtout à notre époque, quand on entend plein de choses à la télé, on lit plein de choses sur Internet, des attaques ciblées bien sûr contre la pratique de notre dîne, ben des fois, Shaitan peut me mettre à la tête que ben c'est vrai que l'argument de ces personnes tient. Moi bien sûr, je suis musulman, hein, je crois à mon dîne, mais ce qu'ils disent sur tel sujet, ben c'est peut-être pas faux. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion? Ne pas laisser Shaitan ouvrir la brèche. Et le Coran apportera la lumière de ton cœur. Mais là encore, peut-être pas ce soir, mais bien préciser quel genre de lien avec le Coran. On passe à Allama al-Qurtubi rahimahullah, c'est un tafsir qui est majestueux, mais très compliqué, très compliqué. Donc c'est rare qu'on le cite, mais là il a un complément. Il dit qu'une guérison compte à chaque c'est quoi? Le doute, d'accord? Ou un nifaq, l'hypocrisie. La lumière du Coran va protéger ton cœur et le laver de un nifaq, de l'hypocrisie, ce qui est énorme, ça, mashallah. Ou al-khilaf, les divergences, la scission au sein de la jamaat, d'accord? Il y a des fois où Shaitan, il vient, quelqu'un veut faire une bonne action, d'accord? Et il s'emploie par différentes façons, ainsi de suite, et quand on essaie de ramener un peu plus vers la spiritualité, bref, des fois, pour une question de masla, on se disperse. On a des avis divergents, mais Shaitan, il va chercher la brèche. Il est très fort. Il s'adapte à tout ça. Quand il voit qu'il y a divergence en décroyant sur un point, il va essayer de creuser la brèche pour montrer qu'il y a un fossé qui nous sépare et que voilà, il y aura maintenant deux groupes à partir, ainsi de suite. D'accord? Le Coran, de façon intelligente, avec méditation sur le sens des versets, compréhension et l'intention ferme de s'y conformer, ça t'apportera également, c'est également un remède contre les divergences des cœurs. Washiqaq, ça va dans le même sens. Naam. Et Allama Sa'di, rahimahullah, de façon plus globale, il dit que la lumière du Coran est un remède contre min amrad shahawat, les maladies passionnelles, tout ce qui te pousse vers le haram, toutes les choses mauvaises qu'il y a de ton cœur qui te poussent à accomplir des choses mauvaises, sache que la lumière du Coran peut laver tout ça. Parce que, et c'est là qu'on arrive vers le côté tadabbur, parce que Allama Sa'di dit, parce que فَإِنَّمَا فِيهِ مِنَ الْمَوَاعِذِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ مِمَّا يُوجِبُ لِلْعَبْدِ الرَّغْبَ وَالرَّهْبَ. Car de le Coran, dans ses récits, dans ses leçons de vie, dans son enseignement, dans ses ordres directs, dans ses interdits directs, dans son contenu de façon globale, dans ses mises en garde, dans ses promesses, et ainsi de suite, ça crée obligatoirement الرَّغْبَ وَالرَّهْبَ. الرَّغْبَ, on connaît peut-être la racine sous un autre mot, التَّرْغِيبِ. At-targhib, c'est quoi? Comment on peut traduire at-targhib? Hein? Oui, non. Le rappel, mais at-targhib, c'est un rappel qui motive, qui te donne envie de faire quelque chose. Contrairement au at-targhib, qui est la mise en garde. Un rappel qui te met en garde, qui te repousse quand il s'agit d'un péché. Il dit justement, ce croyant qui s'accroche au verset. Et là, on voit bien à travers ce qu'Allama Sa'di, rahimahullah, dit que c'est pas celui qui se contente de lire. C'est pas celui qui se contente d'écouter. C'est pas celui qui se contente de mémoriser. Quand un enfant fait une khatm al-Qur'an, pour nous, c'est le summum du Qur'an qui a été atteint. Non. Il a le message en lui. Mashallah. Maintenant, cette lumière, il faut l'amplifier, la garder, la pratiquer, etc. D'accord? Et donc, Allama Sa'di dit que c'est cette personne qui s'accroche au verset, qui l'étudie et qui a l'intention ferme, qui se fixe comme objectif de se conformer à ce Coran, dans son cœur, il va trouver la motivation, l'envie de bien faire. Et il y aura dans son cœur cette crainte de désobéir et de déplaire à Allah Azza wa Jalla. Et ce que As-Sa'di dit là, c'est tout simplement magnifique. Il dit wa idha wajadta fihi ay fi qalbihi ou fi qalbika, lorsque tu te rends compte que dans ton cœur il y a ar-raghbata fil khayri, qu'il y a de ton cœur ar-raghba, l'envie de faire de bonnes choses, wa ar-raghbatu min ash-sharr, et que de ton cœur il y a cette crainte d'accomplir le moindre péché pour ne pas déplaire à Allah. On va continuer en français. Quand ça se trouve dans ton cœur, et comment est-ce que ça peut se trouver dans ton cœur? Quand ton cœur est rattaché au Coran et que tu l'étudies, tu comprends le sens avec l'intention de te conformer à son contenu, à son message, dans cette situation où l'envie des bonnes œuvres trouve sa place dans ton cœur et le dégoût des péchés trouve la place de ton cœur, assurément, cette personne va toujours faire passer taqdim muradillahi ala muradin nafs. Il fera toujours passer ce qu'Allah attend de lui, l'ordre divin, avant muradin nafs, avant ce que son nafs lui demande. Et les ordres d'Allah vont devenir ahabbu ila al-abdi min shahwati nafsihi. Pour lui, se conformer à l'ordre d'Allah lui apportera plus de plaisir que d'assouvir quelque chose d'instinctif. Quelque chose en rapport avec ses passions. Des fois qu'on a envie de faire quelque chose, on pense qu'on trouvera un certain bonheur dans ce péché ou même si c'est quelque chose d'autorisé, hein, mais quelque chose de mondain. Et on se rend compte que finalement, ça ne nous remplit pas. C'est-à-dire que cette personne qui a ce lien avec le Coran, je ne vais pas le répéter à plusieurs reprises, mais qui a construit ce lien profond et puissant avec le Coran, fait deux rakats, tahajjud, pour un exemple concret, lui apportera beaucoup plus que assouvir un quelconque besoin. Parce que son cœur est connecté avec Allah. Et son cœur est connecté parce que son cœur, les capteurs de son cœur ont été activés par la lumière du Coran. Donc c'est un cœur qui est prêt. Et je conclue, il dit que alors que la personne qui pratique uniquement parce qu'il faut le faire, parce que c'est de l'habitude des musulmans de le faire, parce qu'il a appris à la madrasa qu'il faut le faire, il faut venir à la mas, il faut lire le Coran, il faut pas faire tel péché, dit que ça risque d'être une pratique très basique, et qui est fragile. qui restera fragile et que cette pratique étant basée uniquement sur le sens du devoir et non pas l'attachement du cœur avec la pratique, dans des moments d'épreuve, de grandes difficultés, quand Allah t'envoie des épreuves, c'est un cœur qui va vaciller. C'est une pratique qui risque de se fracasser, de se fissurer parce que elle ne repose pas sur des bases solides. Elle n'émane pas de ton cœur. C'est une pratique qui a été enseignée, écoutée, mise en pratique. Ce qui reste une bonne action. Mais si ça ne trouve pas sa source de le cœur, cœur alimenté par le contenu du Coran, c'est pas une action qui aura les qualités requises. Et quelles sont les qualités requises? Sincérité. Il se peut que nous manquions de sincérité. Ou que même si, de le sens de sincérité, c'est je le fais pour Allah, je viens à Masjid pour Allah, mais que mon cœur ne s'oriente pas vers lui dans la prière. D'accord? Il se peut que l'action là, qu'on accomplit de façon basique, quand il n'y a pas la source qui vient du Coran, c'est une action qui est accomplie sans conviction, sans concentration, sans dévotion, sans ressentir la soumission à Allah. Alors que quand tu fais ton tahajjud ou ta salat et que tu le fais parce que tu sais que les versets te le demandent et tu t'es imprégné du contenu des versets et tu as envie de le faire pour Allah, la personne ressent la soumission. Je fais ça, j'obtiens le contentement de mon Seigneur. Alors que, je répète, quand c'est une action un peu vide, il n'y a pas ça, il n'y a pas la soumission. Et Allama dit également que s'il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas, on va dire, suffisamment de sincérité, Allah est le seul juge. S'il n'y a pas suffisamment de conviction et de soumission, il se peut qu'il n'y ait pas de istiqama, qu'il n'y ait pas de fermeté dans la bonne action parce que elle n'est pas bien ancrée. Ainsi donc, et là on va conclure, je vous ai dit que c'était un tafsir un peu complexe qui débouche vers vraiment un lien avec Allah qui est rattaché au kalamullah, ce qui est tout à fait logique et cohérent, qui trouve sa source dans la parole d'Allah dans le Coran, qui te permettra d'avoir cette force de iman où tu vas faire les bonnes œuvres pour Allah en te soumettant à ton Seigneur, tu vas rester éloigné des péchés comme si c'était la pire des choses. Et c'est la pire des choses par soumission à ton Seigneur et c'est un cœur qui deviendra vivant. C'est un cœur qui vit pour Allah. C'est un cœur qui est rempli de lumière du Coran. Et tout ça, c'est le tafsir, le contenu de « Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatum » cette exhortation de notre Seigneur qui est un rappel et qui nous permet de rester dans le droit chemin. On va s'arrêter à la prochaine fois, Inch'Allah. On était un petit peu long. J'espère que le tafsir était plus ou moins clair. Et on conclura la prochaine fois avec « Wahudan wa rahmatel lil mu'minin » et on passera « Wahudan wa rahmatel » ورحمةٌ وهدىٌ ورحمةٌ للمؤمنين et on verra la prochaine fois la prochaine fois la fameuse histoire des sahaba qui étaient en voyage et il y a une personne qui était malade piquée par un serpent et ils ont lu le Fatiha et que la personne a retrouvé la santé. On essaiera de voir un petit peu le yaqin maintenant quand on a la forte conviction, parce qu'on va transiter par l'autre point qui est que ce Coran est chifa à partir du moment où tu y crois fermement, que tu as yaqin. Pas juste, par exemple, dire tout le kursi contre tel, tu lis comme un sabak que tu récites avec ton molisab. Non, c'est vraiment le lire avec conviction. Et quand c'est lu avec conviction, ça fait des choses exceptionnelles, comme le sahaba avait guéri quelqu'un qui allait mourir de ce venin de serpent par la lecture de Al-Fatiha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.